Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, on est de retour dans l'After School avec toute la team, 16h-18h. On est avec Nico, bonjour Nico.
Mais bonjour.
Ça va Nico ?
Ça va très très bien.
Ça va très très bien. Alors, cette semaine, il a décidé de changer un peu, figurez-vous. Eh oui, on va parler d'un métier insolite. Et quel est-il, Nico, ce métier insolite ?
Eh bien écoutez, ce métier insolite, c'est un métier d'auteur de blagues, humoriste en fait pour... Enfin, auteur pour humoriste plutôt.
Auteur pour humoriste, mais auteur.
Notre invité nous en parlera mieux que ça, vous verrez.
Très bien.
Et moi, j'en parle très mal au final.
Ok, auteur, on peut le dire comme ça.
Auteur,
mais pour un humoriste, et je crois savoir, pour un humoriste célèbre. Finalement.
C'est ça. Mais
il faut être à la hauteur.
Tu vas voir, tu vas voir.
Tu vas voir.
Un peu de suspense, je vais vous l'introduire comme il faut quand même.
Bah, introduis-le, mais fais ça
obligatoirement. Doucement, Nico, doucement. Quand même.
Avec Vaseline.
Avec Vaseline, bien évidemment. Et
très bien,
préparation.
Bon, c'est l'heure de la rubrique de Nico.
Les insolites de Nico.
Alors, aujourd'hui, nous recevons un invité unique. Un homme dont le talent est aussi piquant que l'échelle de Scoville. Un homme qui dégaine des punchlines plus vite que son ombre et souvent au détriment du simple passant. J'ai nommé Paul-Marie Debry. Et pour compléter cette présentation, Paul-Marie est un auteur de blagues pour humoriste, autrement dit un homme de l'ombre. Mais attention, il n'est pas l'ombre de n'importe qui, puisqu'il est en réalité l'auteur du célèbre humoriste Olivier de Benoît. Et oui, quand Olivier vous fait rire, c'est très souvent grâce à la magnifique plume de Paul-Marie. Si vous avez pu vanner votre belle-mère tout ce temps, c'est... Bon, évidemment, grâce à l'incroyable interprétation d'ODB, mais aussi grâce au talent de Paul-Marie. Bref, cette introduction est comme la série Walking Dead, beaucoup trop longue. Paul-Marie, bonjour, comment vas-tu ?
Bah écoute, très bien.
Bonjour, bonjour. Bonjour Paul-Marie.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors, voilà, peut-être déjà une première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est ton métier ? Parce que bon, moi je l'ai introduit, mais voilà.
Bah écoute, le métier d'auteur de blagues, il est... Il correspond assez bien au nom, finalement, puisque ça consiste à écrire des blagues. Donc,
auteur de blagues,
d'accord.
C'est vrai.
Auteur de blagues, ça consiste à écrire des blagues.
On aurait pu comme ça.
Voilà,
au final, ça
d'accord.
S'écrit. Mais c'est dur d'écrire des bonnes blagues.
Bah écoute, ouais, j'espère, ça fait moins de concurrence. Non, c'est... Je sais pas trop, c'est plus, je sais pas, peut-être une disposition d'esprit, vraiment, qu'un talent littéraire incroyable. C'est... Disons que je... C'est compliqué d'estimer, parce qu'en fait, l'intérêt du boulot et à la fois l'intérêt et la difficulté, c'est qu'il faut que tu t'amuses et pas que tu sois dans la difficulté en fait. Donc finalement, à partir du moment où tu te dis que c'est dur et qu'il faut que tu bosses, et... en fait finalement t'as déjà perdu la partie parce que tu t'amuses pas. Il faut que tu t'amuses, mais en même temps, il faut quand même que tu bosses à un moment donné parce que sinon il y a rien qui se fait. Donc en gros, c'est un peu un...
Et t'as paradoxe, des blagues, je m'imagine, que tu penses drôles et qui ne le sont pas du tout lorsqu'elles sont rendues par Olivier par exemple.
Peut-être 90%.
Hein. Ouais, c'est ça, t'as que 10% de tes blagues qui marchent.
Ouais,
quoi.
90.
Bah, en fait, les gens ont cette désagréable propension à ne pas rire à mes blagues.
À sourire, peut-être.
Ouais, sourire, ça va encore. Non, parfois, t'as un visage fermé ou parfois, effectivement, une incompréhension terrible sur leur visage.
Alors, moi, j'ai une question parce que, donc, du coup, tu écris pour Olivier de Benoît. Tu t'as quelqu'un dans ta vie t'as une compagne, t'es marié
C'est quoi cette
ouais,
question
non,
mais j'en viens après.
C'est une proposition là ou parce que c'est
non,
un peu.
Non, mais c'est pour la suite. Est-ce que tu es une belle-mère? Est-ce que t'as une belle-mère en fait
c'est ça, Non, mais tout est c'est un travail de fiction.
D'accord, ok.
Alors, c'est de la fiction essentiellement.
Paul, mais comment t'es venu à travailler avec cet humoriste et avec lui et pas avec quelqu'un d'autre et raconte-nous un petit peu ton histoire et la rencontre.
Mais écoute, tout est dû à mon destin facétieux finalement.
D'accord.
Moi j'avais fait une école de commerce au cours de laquelle j'avais consacré la majeure partie de mon temps à me demander pourquoi je faisais une école de commerce. Et en sortant finalement, je suis allé avec une énergie extrêmement mesurée essayer de trouver un travail... à me dire que j'allais essayer de remplir des classeurs Excel toute la journée. Et il y a eu un décalage, parce que les gens qui eux-mêmes remplissent des classeurs Excel toute la journée sont extrêmement contents de remplir des classeurs Excel toute la journée.
Bien sûr. Ou pas.
Et donc ça... Alors ceux que je voyais, si. Moi je pensais que finalement, il y aurait une forme de communauté d'esprit, quoi. Que...
Ah ouais, non.
Qu'on allait partager une peine, que j'allais être un peu l'épaule sur laquelle ils viendraient pleurer. Et finalement, non, pas du tout. Il voulait quelqu'un d'enthousiaste.
D'accord.
Et donc, ça l'a jamais fait. Et en gros, moi, je faisais des scènes ouvertes parfois à l'époque, des plateaux. Et en gros, on m'a présenté donc Olivier. Et puis finalement, ça a fini par le faire. Mais c'est moi, c'était pas quelque chose de prémédité ou de.
Mais comment ça se passe en fait lors d'une scène ouverte? C'est lui qui vient te voir et qui te dit bah écoute, j'aime bien ton style d'humour. Est-ce que tu voudrais écrire pour moi?
Non, c'était quelqu'un qui était dans la scène ouverte, qu'il connaissait de l'époque où l'époque héroïque où il était au point virgule. Tout seul dans la salle avec deux personnes. Et puis finalement, il nous a fait nous rencontrer. Et puis ouais, ça s'est bien passé. Et puis voilà quoi.
On peut citer la scène ouverte? Tu te souviens?
Elle a disparu, mais c'était une scène ouverte, je crois. J'en sais rien. C'était une scène ouverte qui s'appelait Candidator.
Candidator, ouais. De Marc-Olivier Gage.
Ouais, voilà, tout à fait. Ouais.
Très bien.
Mais donc en gros, on peut un peu dire que c'est quand tu es arrivé dans sa vie qu'il a percé.
Alors, j'aimerais beaucoup, mais ce serait faux. Non, parce qu'en fait, il a percé grâce à l'émission de Ruquier.
C'est on ça. Demande
oui, moi, je suis arrivé après, une fois qu'il était déjà établi, si on peut dire.
D'accord. Okay.
Est-ce que tu touches des droits d'auteur, comme les chansons?
Alors, moi, je ne suis pas comme Nico, je ne fais pas ça bénévolement. Hein,
Donc, oui.
Je ne suis pas aussi bête et naïf.
Ça marche de la même façon. J'imagine que ça marche de la même manière.
Ça fait plaisir, merci.
La SACD, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est tout à fait ça en fait. À partir du moment où ton sketch est joué à la télé ou joué dans une salle de spectacle, tu vas toucher les droits d'auteur.
D'accord.
Et c'est vraiment le même principe qu'une chanson, sauf que après, bon, évidemment, on passe moins de sketchs à la radio ou à la télé que des chansons.
Bien sûr.
Mais globalement, c'est un peu le même principe. Ouais.
Tu aimerais travailler pour une autre personnalité humoriste ou est-ce que tu as d'autres projets en vue qu'avec Olivier et Benoît?
De Benoît.
Ouais.
Non, enfin, je trouve ça cool de bosser avec lui, et puis pour le moment, non, bah après on verra.
Alors voilà, comment ça se passe au quotidien, par exemple, ton job?
Bien, tu as une feuille blanche devant toi,
et un petit stylo.
Voilà.
Et tu notes à tout moment, en fait.
Non, mais dans la relation avec l'humoriste, comment ça se passe, en fait? Tu l'as quotidiennement au téléphone, tu bosses, à un moment donné, tu proposes et tu fais un débrief...
En fait, lui, il est beaucoup sur le one-liner. Donc, en gros, c'est des blagues qui un peu se suffisent à elles-mêmes, si on peut dire.
Okay.
Et en gros, on définit des thèmes dans lesquels il veut aller.
Okay.
Et moi, j'essaie de remplir un peu ces blancs-là, ces cases. Donc, essayer d'avoir pas mal de vannes sur des thèmes. On fait des sketchs après, on organise un peu le truc de manière à ce qu'il y ait une petite histoire et que les gens ne soient pas baladés à droite, à gauche. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, quoi. On définit des thèmes ensemble. Puis après, on bosse un peu chacun de notre côté. Puis après... On met les choses en commun, on organise les trucs histoire
et
que.
Le meilleur moyen de les tester, ces vannes-là, avant que le spectacle soit bouclé, c'est les scènes ouvertes, toujours.
Les scènes ouvertes, où lui, vu qu'il tourne beaucoup, parfois à la fin du spectacle, il essaie de. Ouais, voilà,
d'accord.
Tester
de nouveaux
trucs. Est-ce qu'il faut s'imprégner le personnage pour essayer de. Parce que c'est un peu. Enfin, moi, je connais bien la chanson, mais quand t'es auteur pour un chanteur, tu t'imprègnes un petit peu le chanteur, tu connais un petit peu sa personnalité, son caractère. Okay. Est-ce que c'est la même chose pour toi avec l'humoriste? Est-ce qu'il faut que tu t'imprennes un petit peu le personnage de façon à dire tiens lui je verrais bien dire ça comme ça etc etc?
Non, moi j'essaye pas, enfin parce que disons que j'essaie, enfin je pense qu'il faut pas se brider, tu vois.
Ouais.
Donc en gros tu
lâches.
Ouais, voilà, c'est lui qui fait le tri en fait de toute manière. Donc lui il va sélectionner de toute manière des choses dont il pense qu'il lui correspondent ou qui lui correspondent vraiment.
D'accord.
Mais je pense que ça sert à rien de se brider ou de se dire bon bah lui il dirait ça comme ça, parce qu'en fait toi tu vas te mettre dans une disposition d'esprit où bah encore une fois tu te mets des contraintes, tu te dis bah c'est comme ça que ça doit être, alors que non, tu vois, l'humour, c'est d'aller...
Ouais, c'est d'aller chercher là où il y a... Ok.
Voilà, donc d'accord. Je pense que... Non, moi, j'essaie pas du tout de faire ça. Et de toute façon, lui, après, il sélectionne. Donc, finalement, ça se fait comme ça, quoi, la direction, quoi. C'est que...
Ouais. Et aujourd'hui, Olivier de Benoît tourne actuellement ?
Oui, il tourne toujours. Donc, n'hésitez pas à aller voir son spectacle.
Ok.
Où ça ?
Il est en tournée un peu partout en France. Vous pouvez aller voir les dates sur son site. Ou...
Et son d'accord. spectacle, il a combien... Il a au moins 3 ans, là, c'est ça ?
Bah là en fait c'est particulier parce que nous on a été...
Oui, il y a eu le Covid.
Ouais, donc c'était assez formidable.
C'était la belle période.
C'était extraordinaire parce qu'il jouait à Paris. Donc premier mois et demi, grève des transports.
Oui,
effectivement.
Et dernière 3 semaines, je crois que c'était le Covid, donc les salles étaient fermées. Donc il y a dû avoir un mois et demi d'exploitation. Donc c'était... Ouais, non, encore un grand souvenir. Mais maintenant, oui, ça tourne partout en France, donc depuis fin 2020, je crois.
Donc une fois que le spectacle, il est bouclé, entre guillemets, ton travail, il est moindre, il est déjà peut-être de se dire
anticiper sur
go
autre,
sur le suivant, quoi.
Ouais, voilà, ou alors de... ça dépend. Parfois, tu peux aussi essayer d'adapter le spectacle, peut-être dans
en fonction de la ville. Aussi, et de l'actualité.
Aussi, peut-être. De la ville, parfois, où trouver des nouvelles choses, où ça dépend. Parfois, lui, après, va faire d'autres choses à la télé, à la radio. Donc, je peux aider à écrire les chroniques.
Par exemple, quand il était chez Drucker, tu bossais aussi sur ses vannes ?
Ouais, à la fin, ouais. Pas les premières années, mais à la fin, ouais.
Okay. Est-ce que ça t'arrive de te lever à 4h du matin et dire « Ah oui, ça, il faut que je la note parce que... »
Non, moi je me lève pas. Des fois, je me réveille. Je me dis « Cette vanne est géniale. » Je me rendors et je l'ai oublié le moment.
Ah, mais c'est con, ça. Non, tu notes pas. T'as jamais envie de dire « Tiens, je vais noter sur un papier. »
Si, mais en fait, je me dis je note 2-3 mots, les 2-3 mots clés de la vanne.
Ouais.
Pour, je me dis « Le lendemain, je vais m'en souvenir. » Donc le lendemain, j'allume mon téléphone et je vois « Soupirail, drogue, des choses qu'on n'a rien à voir. »
Mais là, je remarque qu'il a son ordi avec lui. Ça se trouve, il est en train d'écrire des vannes sur nous pour Olivier de Benoît.
Oui, il y a une chronique en fin d'interview, Julien. Et donc, d'autres questions là qui vous viennent tout de suite
Ouais, est-ce que lui ou est-ce que de toi-même, tu t'auto-censures ? Comment tu fais par rapport à... est-ce qu'il y a certaines thématiques ou certains trucs que tu t'interdis ou que lui t'interdit ?
Pour toi, est-ce que l'humour, ça amène... on peut parler de tout, quoi.
C'est deux questions différentes. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler de tout Je pense, après, c'est la réaction des gens, quoi. C'est toujours pareil. Mais je pense que, ouais, on peut parler de tout, il faut parler de tout. Après, faut être prêt à gérer la réaction des gens qui...
Parfois, bad buzz.
Ouais, voilà. Je pense que c'est plus ça. Après, moi, est-ce que je m'auto-censure Encore une fois, moi, j'essaie de pas m'auto-censurer.
C'est lui de te censurer si jamais.
Ouais, voilà.
C'est plus lui qui va te censurer.
C'est à la limite, lui, je sais qu'en, par exemple, il y a des thématiques sur lesquelles on peut aller assez loin parce que son public, entre guillemets, est habitué. Mm-hmm. Et il y a une forme de pacte, en fait, où on sait que, attends, je parle de ça, je le pense pas, je suis pas allé hyper loin.
Okay.
Et t'as d'autres thématiques où finalement, il les a jamais abordées, on sait pas trop où il se positionne. Et là, t'es pas sûr que le public, en fait, y ait cette même notion de pacte implicite de second degré.
Quoi.
Okay.
Donc, mais je m'auto-censure pas. Enfin, encore une fois, j'essaie vraiment de laisser la créativité. Et puis après, derrière, tu sélectionnes. Quoi. C'est...
Et tu me disais en off aussi que des fois, t'allais...
J'ai dit beaucoup de choses en off.
Ouais. Ouais. Non, je n'ai pas parlé de choses tendancieuses. Je vais juste dire que des fois, tu me disais que t'allais à son spectacle. Notamment quand il commence, j'imagine, pour les premières fois, son spectacle que vous avez écrit ensemble. Et du coup, à quel point est-ce que là, ton rôle est important ? Est-ce que du coup, toi, vu que t'es dans le public, t'as une vision autre que lui sur scène ? Et est-ce que tu dis, ok, Olivier, il va dire, je sais pas, moi, par exemple, la deuxième vanne, là, elle a cartonné, t'as dû la faire, en fait, non, dans le public, c'était un flop, il faut la changer.
Non, mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à dire, ouais, dans le public, ça a bien marché. Et lui me dit, non.
Ouais, c'est...
Donc, mais ouais, des fois, t'as des perceptions différentes, mais après, le truc, c'est de toute manière, il y a aussi une question de confiance. Est-ce que t'as confiance dans la vanne que tu vas dire ? Et à la limite, c'est presque ça qui prime par rapport au résultat objectif du truc, quoi. Parfois, il vaut mieux que sur scène, ça, je le comprends tout à fait, que sur scène, tu sois en confiance avec un truc dont t'estimes que ça va fonctionner, plutôt qu'un truc que tu sens à moitié, même si finalement ça marche, mais tu sais pas trop pourquoi, comment le faire, ou voilà. Mmh. Donc, il vaut mieux aller avec un truc dans lequel t'as confiance, et quelque part, la perception, elle est plus... plus importante quelque part que la réalité objective. Quoi,
et presque. On sait que les humoristes achètent des vannes. Toi, sur 100% du spectacle d'Olivier de Benoît, tu considères qu'il y a combien de pourcentage du spectacle qui est propre à ton travail ?
En vrai, je saurais pas dire. Je pense beaucoup.
Beaucoup ?
Ouais, estimé en termes de pourcentage.
Ou il adapte peut-être. Toi, tu lui dis, tiens, on va parler de ça. Oui, j'ai une super vanne. Il va la transformer, il va l'adapter.
Oui, après, moi, j'ai... J'ai tendance parfois à écrire des phrases un peu trop longues.
Ouais.
Et lui a tendance vachement à réduire.
À réduire. Ouais.
J'imagine que en fait, c'est un peu comme un travail de groupe, on va dire, comme on était au lycée, que vous êtes à deux à travailler ensemble et que lui, il amène des idées, toi, t'amènes d'autres idées. Et après, vous reformulez pour que le spectacle soit le mieux possible. Le seul truc, c'est que c'est lui qui le présente sur scène. Mais au final, l'écriture... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que vous l'avez... Enfin, vous l'écrit ensemble, quoi. En fait, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est lui qui va assumer derrière devant les gens. Donc, bon, c'est normal que lui aussi ait...
Faut qu'il soit à l'aise, on en revient à ce que tu disais.
Voilà, ouais, c'est ça. T'as une notion de confiance qui est hyper importante.
Bah, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font appel à des auteurs de blagues ?
Je pense, ouais, t'en as énormément. Après, t'en as qui écrivent tout seul. Ouais. T'en as qui sont aidés par d'autres et qui le disent pas.
Oui.
Ah, ça arrive aussi.
Et on se rappelle de la...
Oui. Oui, dis-moi tout, Fred.
Vas-y. On non, se parce que de copy comics.
Voilà, oui, ouais, de certaines polémiques.
Mais même sans aller là-dedans, tu vois, t'as des gens qui vont rémunérer,
ouais.
Merci. Rémunérer les autres, mais qui vont pas forcément le dire ou voilà, tu vois. Moi, par exemple, de ce
en télé, ça se fait beaucoup, ça.
Ouais, mais après, tu peux avoir ton nom sur le générique, tu vois. C'est
oui, moi, souvent, exemple, oui, tout à fait.
Il va pas, tu vois, prendre un mégaphone et hurler dans la rue que je l'aide, mais il y a mon nom sur les affiches, sur les trucs, tu vois.
C'est ouais, ça. C'est
il y a une reconnaissance quand même derrière
ouais, voilà,
le travail.
C'est,
bien sûr.
Et t'en as qui se disent, à tort, à mon sens, parce que l'interprétation, c'est hyper important, quoi.
Bien sûr.
Mais que si, à un moment donné, ils disent qu'ils ont pas écrit les blagues eux-mêmes, quelque part, on leur retire un truc, quoi. Alors que non, moi, je pense que être un interprète... c'est pas honteux, enfin, tu vois, c'est une composante hyper importante du truc, et au contraire,
ouais, c'est un peu le parallèle avec la chanson entre les auteurs interprètes et les interprètes sentiments.
Ouais, voilà.
Et est-ce qu'il utilise les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un humoriste 2.0 et est-ce qu'il met des vannes sur ses réseaux?
On est vraiment sur le 1.0 pour le moment.
Ouais,
okay. Il est toujours son copain d'avant.
Ouais, d'accord.
Et tu veux pas l'aider à passer à switcher en 2.0 justement?
Non, mais j'ai peur d'être 1.0 aussi. Ouais.
Ok.
Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que. Enfin, il est quand même sur Insta, tu vois, sur tous les réseaux, mais disons que c'est pas. Ouais, effectivement, comme beaucoup d'humoristes qui arrivent aujourd'hui et qu'on crée leur
ouais,
communauté.
C'est pas
absolument,
ouais. C'est pas son histoire.
Ouais, voilà, son histoire, lui, c'est la télé finalement. Avec
ouais. La scène et la télé, ouais.
Ouais, voilà.
C'est... Et est-ce qu'il joue au cinéma?
Ouais, il a fait.
Ah oui, oui, il a tourné.
Ouais, non, il a fait.
Quel film
Je sais plus, mais je sais qu'il a tourné parce qu'on a fait une promo merci ensemble Sam. Sur un plateau télé où il était là justement à présenter le.
Ouais, non, j'ai
le
un
film.
Un souvenir où il avait fait un film avec Guillaume Canet ou.
D'accord.
Ouais, ouais.
Mmh. Astérix, c'était Astérix.
C'est la première fois. C'est la première fois que moi j'ai rencontré justement sur un plateau télé Olivier de Benoît. Voilà.
Et c'était un film improvisé de mémoire à moitié.
Okay.
Enfin, concept,
est-ce que tu as un scoop à nous balancer sur Olivier de Benoît?
Je n'en ai aucun.
Il adore sa grand-mère. Allez. Sa belle-mère.
Un scoop. Balance-nous un scoop quand
il
même.
Il adore ta mère.
Il n'a peut-être pas le droit de donner des scoops.
Sans bah lui. Non, mais ça peut être un.
Sa belle-mère, elle est très sympa. Je l'ai rencontrée une fois. Et en vrai, elle est très sympa.
Et pour
j'ai cassé un mythe. Mais...
Et pour en venir au métier d'auteur, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, auteur, donc il y a auteur pour humoriste, mais on sait très bien que dans la télé. Notamment dans la fiction, il y a vachement de possibilités aussi. Toi, aujourd'hui, tu es entre guillemets auteur d'Olivier de Benoît, mais je m'imagine que tu peux t'ouvrir aussi à d'autres activités, à d'autres secteurs.
Ouais, bien sûr. Après, c'est, je pense, aussi un truc différent, des compétences différentes. C'est-à-dire que, en gros, il faut apprendre à organiser un peu l'histoire, à créer des personnages. C'est encore un autre métier que faire des blagues, quoi, pour le coup.
Mais est-ce que tu te projettes un peu là-dessus?
Ouais, parfois je me dis que j'aimerais bien raconter des histoires et puis après je lis ce que j'ai écrit, je me dis que c'était pas une bonne idée. Mais non, ouais, ça me dirait bien, mais c'est ouais, voilà, des métiers complètement différents, quoi.
Ouais, parce que et puis du coup, c'est une question d'opportunité aussi, j'imagine.
Voilà, d'opportunité et puis aussi malgré tout de compétences, quoi, parce que t'as un contenu technique malgré tout aussi dans le fait d'écrire des histoires qui se tiennent, où t'as des personnages qui sont développés. Qui sont pas ectoplasmiques. Donc, non, je pense que t'as des compétences aussi qu'il faut maîtriser.
Mais le métier d'auteur, ça apprend aussi.
Ah oui, non, mais tout ça apprend. Après, je pense qu'effectivement, dans les blagues, c'est peut-être plus empirique que réellement quelque chose où. Enfin, tu sais, t'as des écoles d'humour, quoi, mais. Moi, je trouve que c'est pas forcément un truc qui s'apprend, tu vois.
Ouais, c'est inné.
Ouais, je pense qu'il y a,
on est d'accord,
y a du travail pour développer, mais il y a un côté inné.
Oui, c'est un côté inné, comme les comédiens.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors que je pense que finalement, devenir un bon scénariste, peut-être que je me plante, parce que je connais pas trop, mais je pense que c'est plus facile à apprendre, entre guillemets, que devenir un mec écrivain.
Est-ce que t'as eu des opportunités depuis que t'es en collaboration avec Olivier de Benoît? Est-ce que ça t'a aidé à avoir plus d'opportunités, des propositions, le fait que tu travailles avec Olivier de Benoît?
Ouais, j'en ai eu quelques-unes de temps en temps parce que, bah, vu que lui, ça fonctionne, les gens se disent, ils sont extrêmement sympathiques que j'ai un certain talent et je n'ai pas le cœur à les détromper. Mais après, pour le moment, ça se passe bien. Donc,
ouais. Comment tu qualifierais ta relation avec Olivier de Benoît aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un côté amical, il y a une amitié qui s'est créée en plus du professionnel? Est-ce que...
Ouais, je pense qu'on entend bien parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Puis finalement, c'est une petite équipe, quoi, tu vois. On est deux à bosser sur le truc. Ouais. Donc finalement, ouais, non, je pense que c'est pas juste un collègue de taf que tu vois une fois à la machine à café et tu vas dire du mal après à la file à compta, quoi.
J'ai une question. Question.
Je pense que c'est un peu obligé que tu t'entendes bien avec lui aussi, quoi.
Sur les réseaux sociaux, il y a une question. Est-ce que tu es prêt à travailler pour d'autres humoristes?
Écoute, oui, je me pose pas vraiment la question pour le
moment. Tu ne mets pas de barrière.
Parce qu'il y en a un qui recherche actuellement pour son prochain spectacle, c'est Pierre Palmade.
Alors, justement, en parlant de Pierre Palmade, je regardais pour répondre à la question de... Pour répondre à la question de Stan, justement, si Olivier a travaillé dans des, a joué dans des films, il a joué dans un téléfilm, justement, de Pierre Palmade.
Ah ouais.
Voilà. Qui s'appelle Le Grand Restaurant, La Guerre de l'Étoile.
Ouais. C'était une c'était sur France 2.
Ouais, je vois.
Et pour info, donc du coup, toi, tu as commencé comme humoriste, parce que si tu faisais les scènes ouvertes, c'est que tu étais derrière un micro et sur scène. Est-ce que toi, t'as un one man en préparation?
Écoute, l'idée me titille.
D'accord.
Mais pour le moment, il est vraiment en préparation.
Il est vraiment en préparation, très bien.
Okay. Est-ce que toi, tu aimerais bosser avec un auteur pour écrire ton one man show?
Ah, c'est pas con ça.
L'auteurception, tu vois.
Ouais, non, je pense qu'à un moment donné, tu... Tu sais, c'est les meilleures victimes qui font les pires bourreaux. Ou... Quelque chose de cet ordre-là. Non, mais... Je sais pas, après, bah, je pense que c'est aussi une déformation professionnelle, mais pour moi, un spectacle en one, en tout cas d'humour, ça repose vachement sur le texte. Et non, moi, je préfère que les gens découvrent un peu mes blagues à moi. Que...
Et là, t'es en pur stand-up sur un spectacle ou c'est un one avec des sketchs, enfin...
Non, pour le moment, c'est du stand-up.
Ouais, parce qu'en tant qu'auteur, je m'imagine que quand t'es dans la vanne, c'est stand-up total, quoi, de faire des plateaux de stand-up plus que...
Ouais, après, c'est pas forcément, je pense, tu peux avoir des super auteurs qui font du... des sketchs avec des persos, voilà. Je pense que t'as
c'est
aussi.
C'est pas ton truc, quoi.
Non, voilà, c'est plus que c'est pas mon truc parce que tu as aussi besoin. Pour que ton sketch avec perso il fonctionne vraiment, t'as aussi besoin d'une écriture au cordeau, quoi.
Ouais,
bien sûr.
Ah oui, c'est sûr. C'est un gros travail. Bon, bah très bien, merci.
J'ai une dernière question, ouais. Si c'est possible.
Bah oui, Nico, vas-y. Ah oui, c'est possible.
Merci, c'est gentil, Fred. Merci, patron. Je sais que, de source sûre, que dans tes loisirs, tu pratiques de l'improvisation. Est-ce que c'est, chose qui t'aide, en fait, dans ton métier? Parce que, au final, je pense que improviser, ça t'aide quand même à avoir un certain répondant. Et donc, je me demandais si tu avais fait notamment l'improvisation pour t'aider à écrire des blagues, ou pour t'aider à aller sur scène, ou juste par plaisir, quoi.
Je pense non, c'est plus un plaisir parce que en fait l'improvisation t'es dans l'instant et t'as des conditions où t'es complètement sous l'eau parce qu'il se passe plein de trucs et qu'il faut que t'essaies de les gérer que tu retrouves pas quand t'es tout seul devant une feuille à essayer d'écrire, quoi. Je pense, l'impro c'est en quelque sorte un flingue métaphorique sur la tête et quand t'es devant l'ordi ou ta feuille, en fait tu l'as pas, quoi. Donc je pense c'est pas vraiment... Les conditions sont pas reproductibles, quoi.
D'accord, donc c'est juste pour le plaisir.
Ouais, voilà, pour le plaisir.
Et peut-être un jour pour monter sur scène aussi, parce qu'il y a une part d'impro, je m'imagine. Quelquefois, quand on est sur scène, il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut aussi savoir improviser.
Ouais, voilà. Après, t'as des... Je vais briser un mythe, mais t'as aussi beaucoup de sites. Enfin,
de fausses impro. Ouais.
Disons que le public est pas si unique que ça, et donc t'as des situations qui se reproduisent
et que t'as travaillé en fonction de telle ou telle réponse.
Non, pas forcément. Disons que t'as eu l'impro une fois, t'as eu la bonne idée une fois, et la première fois je suis une impro où t'es brillant, et la fois d'après c'est
tu l'es plus.
Tu répètes ce que t'as dit la première fois
et... Ça m'est déjà arrivé de voir deux fois le même spectacle et il y a eu la même blague soi-disant improvisée.
Oui, voilà, donc c'est de l'impro.
Ça rejoint ce qu'il dit,
Et pour conclure, avant de passer donc à l'exercice imposé, hein, parce que t'es venu avec un billet d'humeur, c'est ça?
Ouais, extraordinaire.
Extraordinaire. Est-ce que t'as vu les Césars, par exemple? Est-ce que t'as vu la cérémonie?
Non, je crois que j'ai vu une ou deux vidéos sur Twitter. Non.
Ok, très bien.
Exercice imposé, on se croirait à l'école.
Interro surprise. Pour vous que c'est un exercice imposé, en l'occurrence.
Le prochain, bah écoute, c'est Julien.
J'ai le 4 couleurs, attention. Hein.
C'est quand tu veux. On va couper le bed et on va t'écouter, Paul-Marie, sur ta...
Et sans pression, surtout.
Sur ton billet d'humeur. Et sans pression, hein, faut pas. Hein.
Que vous dire? Bien, je n'en sais rien. Ce matin, quand j'ai voulu écrire le papier, je me suis rendu compte que si j'étais revenu à Paris, ma muse était toujours en week-end. Et comme je dis toujours, l'inspiration, c'est l'inverse du sida. C'est très compliqué à choper et ça s'en va très vite. Que dire ? Ma vie n'est pas si palpitante et peu de choses éveillent suffisamment mon intérêt pour que je m'en émeuve. Ah si, tiens, il m'est arrivé un truc en venant. Bon, trois fois rien, une peccadille. J'ai failli mourir. La France a failli perdre un de ses plus grands talents littéraires. Enfin, un de ses talents. Enfin, un type vaguement connecté au monde des lettres. Le monde des lettres de refus d'éditeurs, principalement. Car les maisons d'édition françaises ont toujours refusé de publier mon chef-d'œuvre, un roman naturaliste intitulé « Le professeur Raoult contre Godzilla ». D'après eux, c'est parce que le livre comporte trop de scènes de sexe explicites entre Didier Raoult et le lézard géant.
Ouais.
Est-ce une raison valable ? Je vous laisse juger. Comme me le disait un éditeur, nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a le physique de Marc Lévy et le style de Michel Houellebecq. Et vous, malheureusement, vous avez le style de Marc Lévy et le physique de Michel Houellebecq. Mais alors, maintenant que ma crédibilité littéraire a été établie de manière certaine, une question, j'en suis sûr, vous brûle les lèvres. Dans quelles circonstances ai-je bien pu échapper à un fâcheux trépas ? J'y viens. Je flânais dans les rues parisiennes en m'adonnant à mon activité favorite, faire la liste des raisons pour lesquelles je suis profondément génial. Une tâche herculéenne qui me prend entre 5 et 6 bonnes heures chaque jour. Alors, plus par manque d'inspiration que parce que les raisons se bousculent, hein, soyons honnêtes. J'étais en train de chercher une raison numéro 2, la raison numéro 1 étant le nouveau souffle que j'ai apporté à la cuisine française, grâce à une recette personnelle, facile à faire pour les étudiants ou ceux qui n'ont pas trop le temps, le canichna au micro-ondes.
C'est quoi ?
Il faut aimer les viandes maigres, mais le goût est au rendez-vous. Si vous n'avez pas de canichna sous la main, n'hésitez pas à vous rapprocher de la SPA locale, ils seront ravis de vous aider. Mais revenons à notre histoire. Au moment où je traversais la rue, je fus soudainement interrompu dans mon introspection par un bruit de sonnette. Un cycliste, juché sur son destrier métallique, avait manqué de me renverser. Alors je réagis évidemment de manière calme et mesurée. J'ai beau être calme et mesuré, je pense juste qu'il faut nommer les choses. Et pour moi, un cycliste qui manque de me renverser quand je traverse la rue, ça porte un nom. Ça s'appelle du terrorisme. Et moi, j'ai beau être calme et mesuré, je pense qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes. Je pris donc, en responsabilité, la décision de recourir à la violence la plus extrême. Alors, un instant, je pensais me servir de la raison pour laquelle je suis profondément génial, numéro 813, à savoir ce physique de dieu grec, responsable de tant de grossesses non désirées dans mon entourage proche. Et puis je me suis rappelé pourquoi j'en étais resté à la raison numéro 2. Mais heureusement pour nous deux, le cycliste avait pris la fuite. Enfin, plus exactement, il s'est même pas arrêté de pédaler et il est parti en m'insultant. Je restais donc seul, à pester contre la racaille à deux roues. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est plus dangereux de traverser la rue de Rivoli que la ligne de front dans le Donbass. Et ça a des conséquences. Par exemple, sur le chômage. Emmanuel Macron disait qu'on ne peut pas trouver du travail juste en traversant la rue. Mais à cause des cyclistes, on ne peut pas traverser la rue. Ils ne nous laissent pas passer.
C'est vrai.
Vous fermez les pistes cyclables, le taux de chômage en France, il passe sous les 2%. Hein. Alors que vous prenez, par exemple, les Américains. Là-bas, il n'y a pas un cycliste. Dès qu'ils doivent se déplacer de plus de 3 mètres, ils sortent le SUV. Et ben, ils ont le plein emploi.
C'est tellement vrai.
Mais tout ça, c'est réfléchi. Hein. Vous pensez qu'ils ont ouvert des fast-food partout juste pour que les profits des propriétaires de McDonald's soient aussi gros que leurs clients ? Non. C'est une mesure délibérée. Vous voyez, c'est une différence de mentalité. Nous, on considère l'obésité comme un problème et eux, ils voient ça comme une solution. En France, il faut faire pareil. Une mesure simple, on doit remplacer la cantine de toutes les écoles par un McDo. En plus, si tout le monde meurt d'un AVC à 45 ans parce qu'il est obèse, on règle le problème des retraites une bonne fois pour toutes.
Bravo.
Bravo. Bravo, bravo, bravo.
La solution, c'est clair.
Après, il y a évidemment d'autres manières un peu moins radicales de diminuer le nombre de cyclistes à Paris. Hein.
Oui, c'est laquelle ?
Par exemple, une idée à moi, c'est que les conducteurs de bus ne soient plus obligés d'être détenteurs du permis de conduire.
C'est pas mal. Alors, faudra proposer ça à Hidalgo.
Énorme.
Supprimons ces réglementations trop lourdes qui étouffent la croissance économique. Startup Nation. Enfin voilà, je conclurai en disant que ce qui est important, c'est d'aimer son prochain. Enfin, sauf si les cyclistes.
Bravo.
Bravo.
Voilà. Merci à toi.
Merci à vous.
Eh oui, merci à toi. On revient dans quelques instants.